Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond, celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui nous invite à regarder en face la belle réalité du mariage qui unit devant Dieu un homme et une femme. Jésus, dans la polémique de la répudiation, ne va pas entrer dans la tentation moralisante que proposent les pharisiens. Jésus va se servir de cette question sur la répudiation pour nous emmener plus loin, beaucoup plus loin. Ainsi, nous partons de la réalité physique du mariage pour nous faire toucher du doigt une réalité encore plus belle, plus admirable, encore plus profonde, mais sans doute qui demande à être dévoilée. Je vous propose ce matin de méditer ensemble sur la profondeur du message que Jésus veut nous communiquer à travers la réalité du mariage. Et ce, à travers trois idées principales. La première, c'est de dire que l'homme et la femme, appelés au mariage, est une image de Dieu. Ça vient de Jean-Paul II. L'homme et la femme, appelés au mariage, est une image de Dieu. De même que le meurtre est interdit parce que l'homme est à l'image de Dieu, l'adultère est proscrit en même temps que toute relation contre nature par respect du Dieu saint et sanctifiant qui veut faire de nous son temple. Jean-Paul II, dans ses catéchèses du mercredi, a traité largement et en profondeur le thème de la création à partir des récits du livre de la Genèse. Il en a dégagé la vocation de l'homme et de la femme. Il dit à ce sujet « L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. » L'image a pour fonction de refléter le modèle, de reproduire son propre prototype. L'homme devient image de Dieu au moment de la communion. En effet, dès l'origine, dès la création, l'homme est essentiellement image d'une insondable communion divine de personnes. Ce point, précise Jean-Paul II, est capital, car nous avons trop tendance à croire spontanément que l'homme est image de Dieu en ce qu'il est doté d'un esprit, d'une âme spirituelle qui le rend finalement semblable à Dieu lui-même qui lui est pur esprit. En réalité, l'homme et la femme sont surtout image de Dieu en tant que personne appelée à la communion. Puisque l'homme et la femme sont des êtres incarnés dont le corps exprime leur personne, cette communion des personnes inclut la dimension de la communion corporelle par la sexualité. Ainsi, le mariage est défendu par Jésus non pour des raisons de morale casuistique, mais en tant qu'il est image de Dieu. Le mariage est le reflet de la personne divine. L'homme révèle sa femme en se donnant à elle, la femme révèle l'homme en acceptant le don de son époux et en le lui restituant. Comme dans la Trinité divine, le Père se révèle dans le Fils et le Fils redit les merveilles du Père. Dans la Trinité, le Père est tout l'amour donné, le Fils est tout l'amour reçu et rendu au Père, et la fécondité de cet échange, c'est l'Esprit-Saint. Les époux réalisent donc la communion de leur personne et sont l'image vivante, incarnée dans la chair, de la communion des personnes divines, y compris dans l'union des corps. C'est la deuxième idée maintenant, c'est de dire que le mariage, image de la relation, est image de la relation entre Dieu et son peuple. Et je m'attache à regarder le prophète Isaïe qui nous dit « Ton Créateur est ton époux, Seigneur de l'univers est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre. » Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit le Seigneur ton Dieu? Un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas. Nous voyons que Dieu peut parler de lui-même par la bouche d'un prophète en se servant du langage humain. L'expression de l'amour de Dieu est humaine, mais l'amour lui-même est divin. Cette femme épouse, vous l'avez reconnu, c'est Israël en tant que peuple élu par Dieu, et cette élection a sa source uniquement dans l'amour gratuit de Dieu. C'est justement dans cet amour que s'explique l'alliance, souvent présentée comme une alliance nuptiale, que Dieu renoue sans cesse avec son peuple élu. Dieu, lui, reste fidèle à son amour sponsal, même si l'épouse s'est montrée bien des fois infidèle. La troisième idée, le mariage humain est image de la communion qui existe entre le Christ et son Église. Saint Paul pousse l'analogie en parlant du Christ et de l'Église à travers le commentaire qu'il fait de la phrase du livre de la Genèse que nous avons écouté en première lecture. « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. » Et il poursuit « Ce mystère est grand. » Et il y voit dans la femme et cet époux l'image du Christ et de l'Église. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Et nous entrons là dans une dimension, dans une autre dimension, celle de se dire que le mariage humain est image de la communion qui existe entre le Christ et son Église, entre le Christ et chacun d'entre nous. Église épouse du Christ, ils ont été appelés l'un à l'autre à un amour nuptial. Le sacrifice de la croix fait ressortir d'une manière décisive le sens sponsal de l'amour de Dieu. Le Christ est l'époux de l'Église comme rédempteur du monde. L'Eucharistie est le sacrement de l'époux, de l'épouse. L'Eucharistie rend présent et réalise à nouveau sacramentellement l'acte rédempteur du Christ qui crée l'Église, son corps. À ce corps, le Christ est uni comme l'époux à l'épouse. Si le Christ, en instituant l'Eucharistie, l'a lié d'une manière aussi explicite au service sacerdotal des apôtres, il est légitime de penser qu'il voulait, de cette façon, exprimer la relation entre l'homme et la femme, entre ce qui est féminin et ce qui est masculin, voulu par Dieu, tant dans le mystère de la création que dans le mystère de la rédemption. Le Concile Vatican II a renouvelé dans l'Église la conscience aussi de l'universalité du sacerdoce. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul sacrifice, un seul prêtre, le Christ, et tous les baptisés, les hommes comme les femmes, participent à ce sacerdoce unique, à sa mission sacerdotale, mais aussi prophétique et royale. Dans ce cadre, tous nous sommes appelés à répondre, comme une épouse, par le don concret, généreux, total de notre vie, au don infini de l'amour du Christ, qui est seul l'époux de l'Église. Amen.